Vous êtes bien sûr Radio Orient, le journal François-Xavier de Calonne. Le pass vaccinal obligatoire dès ce mercredi en Tunisie. Toute personne âgée de plus de 18 ans devra présenter ce document pour accéder aux espaces ouverts au public. Les célébrations du Nouvel An interdites au Maroc, une mesure dans le cadre de restrictions pour lutter contre la propagation du Covid-19. Pour que ce genre de drame ne se reproduise plus jamais, des mots de la coordinatrice nationale d'Utopia 56, Charlotte Quantes, après que l'ONG a porté plainte pour homicide involontaire contre des représentants des autorités françaises et britanniques. Une plainte après la mort d'au moins 27 exilés lors d'un naufrage dans la Manche le 24 novembre dernier. Charlotte Quantes sera l'une de nos invitées. L'armée française a tué au Niger un chef de groupe de l'État islamique au Grand Sahara, l'un des auteurs de l'assassinat de 6 humanitaires français, de leur guide et de leur chauffeur nigérien en août 2020. Retour dans votre édition sur la victoire de l'Algérie samedi lors de la finale de la Coupe arabe des Nations. Nous écouterons le journaliste et romancier algérien Adlène Mehdi. L'invité de Pluriel à 19h et 23h est Valérie Petit, députée du Nord, membre d'Agir et d'Horizon. Elle est favorable à l'instauration d'un pass vaccinal en France à la place du pass sanitaire. Extrait dans votre journal. Le pass vaccinal sera obligatoire dès ce mercredi en Tunisie. Toute personne âgée de 18 ans et plus devra présenter ce document pour accéder aux administrations publiques, aux établissements scolaires, mais aussi aux structures de santé, aux cafés ou encore aux restaurants. Les personnes vaccinées obtiennent ce pass via la plateforme Evax. Il est valable sous deux formes. Il peut être imprimé sous format A4 ou inséré dans les smartphones. Le gouverneur de Tunis indique que les propriétaires des espaces ouverts au public doivent charger un employé pour contrôler les clients et leur pass vaccinal. Des sanctions seront appliquées pour ceux qui n'appliquent pas cette nouvelle mesure. Le Maroc a annoncé l'interdiction des célébrations du Nouvel An, une mesure dans le cadre des restrictions pour lutter contre la propagation du Covid-19. Cela fait partie d'une série de mesures qui seront appliquées dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, comme l'interdiction d'organiser des soirées dans les hôtels, restaurants et établissements touristiques, mais aussi la fermeture des restaurants et des cafés à 23h30 et la mise en place d'un couvre-feu nocturne entre minuit et 6h du matin. L'association d'aide aux exilés Utopia 56 a porté plainte pour homicide involontaire contre des représentants des autorités françaises et britanniques. Une plainte après la mort d'au moins 27 exilés lors d'un naufrage dans la Manche le 24 novembre dernier. Ces personnes tentaient de rejoindre le Royaume-Uni. La coordinatrice nationale d'Utopia 56, Charlotte Quintès.
L'objectif premier de cette plainte, c'est de faire déjà la transparence et la lumière sur c'est passé ce soir du 24, c'est la vérité qui est due aux familles des victimes et aussi aux rescapés, parce qu'il y a des rescapés. Et puis enfin, le second objectif, c'est bien évidemment que ça ne se produise plus jamais, en fait, ce drame, ce genre de drame. Et par cette plainte, se juge le préfet de la mer du Nord et de la Manche, la direction du Cross Greenet et puis la direction des gardes-côtes anglais. Mais elle est aussi contrée contre toute personne qui pourrait être... se révéler être auteur, co-auteur ou complice de ce drame. Donc voilà, ça peut être élargi et elle porte sur des faits d'omission de porter secours et d'homicide involontaire.
Parce que ce que vous affirmez pour le moment, c'est que les victimes qui tentaient de traverser la Manche sont mortes malgré des appels adressés aux services de secours anglais et français.
C'est ça, donc c'est ce qui est retranscrit en fait dans les témoignages qu'on a, hein, qui sont repris par la plainte, mais qui sont aussi parus dans les médias dès le lendemain du naufrage, et puis aujourd'hui dans certains articles de presse, et c'est confirmé par une source judiciaire qui était en lien avec le journal Le Monde, visiblement, qu'effectivement il y a eu ces appels de passé. Et que les secours ne sont intervenus qu'à la suite de l'appel du pêcheur, en fait, en début d'après-midi, vers 14h. On attend les résultats d'une enquête, bien évidemment. L'objet de la plainte, c'est de mettre toutes les informations suffisantes pour constituer une plainte à disposition. C'est ce qu'on a fait. On pense que c'est trop important de le faire parce que ça laisse suggérer qu'il y a eu un manquement et un défaut d'intervention. Maintenant, reste à l'établir et à enquêter là-dessus, quoi.
Plus globalement, vous demandez un changement radical de la politique migratoire menée aujourd'hui, notamment par la France.
Oui, il y a d'une part déjà que de la non-intervention ne se reproduise plus jamais, pour éviter ces drames, et que quand il y a signal de détresse en mer, les interventions de secours interviennent immédiatement. Ce qu'on observe par ailleurs, il y a beaucoup de sauvetages qui sont réalisés régulièrement. Voilà, on veut que ce qui s'est passé le 24 n'arrive plus jamais, et ensuite, effectivement, au global, parce qu'on estime que ce qui s'est passé le 24 est le résultat en fait de politiques migratoires mortifères à la frontière depuis des années, et de politiques qui sont menées par la France, mais du coup c'est une réelle coordination sur les politiques d'asile et d'accueil qu'il faut mettre en place entre la France, le Royaume-Uni et l'Europe en fait. Donc bien évidemment, ça va au-delà.
Charlotte Cointès, coordinatrice nationale d'Utopia 56. Cette annonce de l'état-major français, l'armée française a tué au Niger un chef de groupe de l'État islamique au Grand Sahara, l'un des auteurs de l'assassinat de 6 humanitaires français, de leur guide et de leur chauffeur nigérien en août 2020, une attaque revendiquée par le groupe État islamique au Sahel. Le conseiller américain à la sécurité nationale a entamé une visite en Israël et en Palestine, un déplacement pour discuter des dossiers iraniens et palestiniens. Il est notamment accompagné du coordinateur de la Maison-Blanche pour les affaires du Moyen-Orient. Le Fonds monétaire international a annoncé avoir approuvé une cinquième et dernière tranche d'aide en faveur de 25 pays parmi les plus pauvres du monde. Objectif, leur permettre d'alléger leurs dettes et de mieux faire face à l'impact de la pandémie de Covid-19. La tranche annoncée s'élève à environ 115 millions de dollars. Retour sur la victoire de l'Algérie samedi lors de la finale de la Coupe arabe des Nations. Une victoire des Fennecs, 2-0 face à la Tunisie au terme des prolongations. Le journaliste et romancier algérien Adlen Mehdi revient notamment sur les scènes de liesse suscitées par le parcours des Fennecs.
Dès que les Fennecs ont accédé au quart de finale et après le match avec le Maroc, qu'ils ont gagné in extremis après les coups francs, l'atmosphère à Alger, c'était de la folie. C'est-à-dire, on a retrouvé un peu l'ambiance de la Cannes 2019. Donc, on a repris les défilés, les sorties dehors, les ventes de drapeaux, etc. Les gens se préparaient comme s'ils étaient quasiment assurés de la finale. Et voilà, il y a eu une ambiance la semaine dernière qui était complètement folle à Alger, bien avant la finale du samedi déjà.
Avec donc l'apogée samedi soir dernier.
Absolument. Les gens n'ont même pas attendu la fin du match. Moi, je suis à Alger et les gens ont commencé à sortir, à défiler, à occuper le centre d'Alger. Déjà, les familles, les jeunes, les convois de voitures, les feux d'artifice. Alger a explosé au même moment. C'était quelque chose d'assez émouvant. Ça rappelait la Coupe du Monde de 2010 ou la fin de 2019, justement.
Des joueurs se sont révélés lors de cette Coupe arabe des Nations.
Oui, parce qu'il faut préciser que c'est l'équipe, une sorte d'équipe B de l'équipe algérienne. C'est-à-dire que c'est une équipe composée uniquement par des joueurs qui évoluent ou en local, en Algérie, ou dans les clubs arabes. Donc c'est une autre équipe que l'équipe A qui a participé à la CAN ou qui participera à la prochaine Coupe du Monde du Qatar. Donc on a des noms qu'on connaît déjà, comme le gardien de but Boulcher qui a fait une exceptionnelle CAN en 2019. Mais on a aussi de jeunes noms, de nouveaux noms, de joueurs qui ont prouvé leurs compétences, qui ont fait des performances incroyables. On a aussi le fait que c'est un jeune entraîneur. Majid Bouguera, c'est l'ancien joueur algérien, il est tout jeune, il n'a pas l'expérience d'un Jamal Belmadi, mais il a prouvé qu'il avait les épaules assez larges pour porter une équipe dans une coupe arabe qui quand même avait des équipes fortes, comme le Maroc, l'Égypte, la Tunisie notamment. Et donc voilà, ça a fait une belle révélation d'une équipe de réserve, en guillemets, mais qui a prouvé ses excellentes qualités, finalement.
Vous évoquez la Coupe d'Afrique des Nations, mais c'est aussi une victoire de bon augure pour la Coupe du Monde de 2022.
2023, mais bon, même si c'est la Coupe du Monde, c'est tout autre défi. Mais au moins, s'ils arrivent déjà à être dans les derniers carrés de la Coupe du Monde, les Algériens, s'ils continuent sur la même lancée, avec une invincibilité d'environ 34 matchs jusqu'à aujourd'hui pour l'équipe principale. Donc ça augure bien pour la prochaine Coupe du Monde du Qatar, oui, absolument.
Adlen Mehdi, vous êtes un observateur de la vie politique en Algérie. On sait qu'une telle compétition n'est bien entendu pas anodine non plus sur le plan politique.
On retombe toujours de le même problème, c'est-à-dire qu'au-delà des festivités protocolaires de l'accueil des joueurs, l'impact qu'on attend est double. D'un côté, il faudrait un impact beaucoup plus grand sur le football algérien lui-même. Or, le football algérien lui-même souffre toujours des réformes du, du football professionnel n'arrivent pas vraiment à donner leurs fruits. On n'est pas arrivé à former vraiment nos propres joueurs. On est toujours dépendant du football européen ou particulièrement français pour, entre guillemets, importer des talents. Sur le deuxième plan, de telles victoires ne se reflètent pas directement sur une politique beaucoup plus ambitieuse sur la jeunesse ou sur les loisirs ou sur ce côté-là du sport en général dans la société. Donc, l'impact est très, très limité. C'est une explosion de joie, c'est énormément de fierté, de bonheur chez les Algériens, mais c'est pas encore répercuté vraiment sur l'avenir du foot et sur le bien-être de la jeunesse en général.
Et ce qu'il faut noter aussi, c'est le côté fair-play, beau joueur de la Tunisie.
Oui, bien sûr, parce que je ne sais pas si vous avez vu les déclarations des commentateurs sportifs en Tunisie ou même du capitaine de l'équipe tunisienne qui disait que l'Algérie gagne, la Tunisie gagne la finale, c'est presque la même chose. C'est inédit de dire ça, mais voilà, les deux équipes, les deux sociétés, les deux peuples sont... On ne va pas tomber dans la démagogie en disant ça, mais c'est une réalité. La Tunisie et l'Algérie, c'est deux pays maghrébins très très proches, comme devrait être l'Algérie et le Maroc aussi. Malheureusement, c'est pas le cas. Mais non, il y a eu ce fair play qui reflétait l'impact de la proximité entre les deux peuples et les deux pays, effectivement. Et ça se passait au moment où le président algérien venait de rentrer d'une visite importante de Tunisie avec un record de 27 accords signés, 300 millions de dollars accordés à la Tunisie pour aide économique, un appui aux réformes économiques, politiques plutôt en Tunisie. Donc là aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, le politique retrouve le football assez rapidement.
Le journaliste et romancier algérien Adlène Mehdi. Le projet de loi visant à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal va finalement être présenté lundi prochain au Conseil des ministres exceptionnel en France et non plus le 25 janvier comme cela a été prévu. Le porte-parole du gouvernement souhaite une adoption définitive du texte dès la première quinzaine du mois de janvier. La France a dépassé les 3000 malades du Covid-19 en soins intensifs et en cas de forte reprise épidémique, le gouvernement n'exclut pas d'aller au-delà des mesures en vigueur. L'invité de Pluriel à 19h et 23h, Valérie Petit, députée du Nord, membre d'Agir et d'Horizon, est favorable à l'instauration d'un pass vaccinal à la place du pass sanitaire. Valérie Petit.
Ce que je veux rappeler ici très simplement, c'est que, c'est dit dans la Déclaration des droits de l'homme, article 4 de mémoire, la liberté, elle s'arrête au moment où on commence à nuire à autrui. La liberté, c'est pas faire tout ce qu'on veut, c'est faire tout ce qu'on veut dans la limite de la nuisance portée à autrui. Aujourd'hui, on a un virus qui est encore plus contagieux, 10 fois plus contagieux que le premier variant que nous avons eu en 2020. Donc il y a une menace évidente pour la santé des Français. Et cette menace, si vous voulez, elle n'est pas simplement les gens qui risquent de mourir et d'aller en réanimation, c'est tous les gens malades. Vous savez, moi je suis Covid long. Ça fait presque un an et demi que je suis malade du Covid. Ça me gâche la vie. Mais sincèrement, je ne respire plus correctement, je peux plus faire de sport, j'ai perdu le goût et l'odorat pendant plus d'un an. Et encore, je ne suis pas la plus malade de tous les malades de la Covid. Donc ce qu'il faut dire, c'est que c'est vraiment important de se faire vacciner, qu'on n'est plus dans une question de liberté, mais une question de santé, que ce n'est pas que la question des places en réanimation, c'est la question de la santé de tous les Français. Il y a des millions de Français qui sont malades du Covid. Certes, ils ne vont pas mourir, mais leur vie est gâchée. Et c'est pour ça que moi, je défends l'obligation vaccinale pour une question de santé. Je défends y compris, et d'ailleurs, mes enfants vont se faire vacciner, qui ont 5 et 9 ans, mi-janvier. Donc vraiment, j'incite tout le monde à le faire et c'est pour ça que je défends l'obligation vaccinale. Donc j'ai salué d'ailleurs les propos d'Olivier Véran, qui l'a dit, le pass vaccinal, c'est un pas vers l'obligation vaccinale. Et moi, sincèrement, je m'en réjouis dans l'intérêt de la santé de nos concitoyens.
Il faut aussi un pass vaccinal dans les entreprises, avec un patron qui serait obligé de contrôler le pass sanitaire de ses salariés.
Alors là, pour le coup, Gabriel Attal a bien rappelé les choses. Pour l'instant, le pass vaccinal, il va s'appliquer à périmètre constant. Donc, pour l'instant, les entreprises ne sont pas concernées. En revanche, le gouvernement est en train de mener des discussions avec les partenaires sociaux et bien sûr avec les syndicats patronaux pour voir comment on peut faire progresser la vaccination dans les entreprises. Donc, il faut faire un petit peu confiance au dialogue social. Moi, évidemment, je ne suis pas pour que l'entreprise fasse à la place de l'État. Je ne suis pas non plus pour que l'entreprise, entre guillemets, fasse la police. Donc, il faut faire confiance à la négociation. Et je pense qu'on va trouver une voie moyenne. Mais vous savez, en réalité, il faut quand même rappeler que les Français sont les bons élèves en Europe de la vaccination. On est en train de parler de quelques cas. Il faut accompagner les entreprises dans la gestion de ces cas, qu'elles n'assument pas toute la charge elles-mêmes, parce que, en effet, ça n'est pas leur rôle. Il faut quand même rappeler que la grande majorité des Français est pour la vaccination et se fait vacciner.
Valérie Petit, députée du Nord, membre d'Agir et d'Horizon, invitée de Pluriel à 19h et 23h, émission préparée, présentée par Loïc Barrière. Fin de cette édition, vous êtes bien sur Radio Orient. Radio Orient qui étend son réseau de diffusion. Votre radio est désormais disponible en DAB+, à Roanne et dans sa périphérie. Cela après Marseille, Toulon, où Radio Orient est aussi sur la bande FM. Nice, Cannes, Dijon, Avignon et Saint-Étienne. Ce nouveau déploiement porte le nombre de zones couvertes par Radio Orient à 28 secteurs en DAB+, en radio numérique, et 11 sur la bande FM. Un très grand merci pour votre fidélité. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio Orient.